Ce matin, on commence une nouvelle série pour quelques semaines, 3 semaines, Théologie du travail. Juste avant de commencer, j'aimerais juste dire un petit mot au sujet de la semaine prochaine. Vous savez qu'on a notre offrande spéciale d'Action de grâce. Alors, c'est dans le feuillet, vous pouvez lire toute l'information à quoi ça va et tout cela. Alors, la semaine prochaine, pendant la louange, on aime pouvoir 2 fois par année inclure dans notre temps de louange aussi une louange de nos propres dons. Alors, où dans la louange, à un moment donné, on vient tous ensemble, en famille, porter nos offrandes, parce qu'évidemment, quand on donne nos offrandes, vous savez, c'est une de nos expressions de notre adoration, qu'on aime le Seigneur, qui est notre priorité, que c'est un privilège pour nous de donner une partie de tout ce qu'il nous donne avec tant d'abondance. Alors, c'est une belle occasion en famille et je vous invite à vous y préparer. Et vous avez toutes les informations sur le pourquoi. Et une des choses qu'on fait avec ces offrandes spéciales, la majorité s'en vont pour le rayonnement dans la communauté. Donc, tous ces efforts qu'on fait pour partager l'Évangile, l'amour de Jésus, sa lumière dans la communauté, que ce soit par les fermiers chrétiens, le groupe biblique à l'université et combien d'autres. Et entre autres aussi, l'émission de Radio 2 Gars, une Bible qui est là. Et une des opportunités intéressantes qu'on a, c'est que la radio nous demande de fournir une playlist gospel le mardi soir après l'émission en rediffusion le mardi soir à 9h. À 9h15, il y a un 45 minutes de chants gospel. C'est nous qui choisissons ces chants depuis des années maintenant. Et à chaque année ou 2 ans, il y a quelqu'un qui s'occupe de la playlist. Et la personne qui s'en est occupée l'année dernière, Alain, je le remercie, a demandé d'être remplacé. Et si vous êtes intéressé, vous aimez garder l'actualité de la musique contemporaine évangélique, de la musique gospel qui est choisie en français et en anglais pour être à la radio. C'est une belle occasion où on peut servir en toute simplicité, faire une playlist pour chaque semaine, on l'envoie 1 mois d'avance. Venez me voir si ça vous intéresse et que vous êtes quelqu'un qui apprécie beaucoup la musique contemporaine chrétienne et ça serait une belle occasion de ministère pour servir. Donc, à venir me voir pour cela. Mais tout ça pour dire qu'à 2 Gars, une Bible, le dimanche matin à 6h45 et en rediffusion le mardi soir à 9h, ça fait partie de nos offrandes spéciales Action de grâce, d'amour. Une partie vont pour payer les émissions de radio, les 50 promos qui passent à toutes les heures du vendredi jusqu'au mardi. Alors, c'est une belle opportunité de rayonner dans la communauté et de faire connaître l'amour de Jésus-Christ. Le travail. Tout le monde travaille, ou à peu près, n'est-ce pas? Et même si vous avez pris votre retraite, certainement que vous vous occupez. Sinon, il y a quelqu'un qui va vouloir le mettre dehors de la maison pour trouver de l'occupation. Hein? Parce que c'est sain, l'occupation. On travaille tous. Et je me rends compte, et c'est un de mes collègues qui me le soulignait, qu'on n'en parle pas beaucoup du travail. Pourquoi je travaille? C'est quoi mon but? Comment travailler avec l'aide de Dieu? Qu'est-ce que est la relation entre le chrétien et le travail selon la parole de Dieu? Et c'est un collègue qui m'a sensibilisé à cela, qui a commencé un ministère, j'en parlerai un peu plus tard, et qui, en l'écoutant, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai ça. Il me semble que c'est quelque chose que ton esprit me pousse à faire. Et pendant les 3 prochaines semaines, on va parler de la relation du chrétien avec le travail. À quoi ça sert? Et autant d'aujourd'hui, pourquoi le travail? Je me rappelle une époque dans ma vie importante de transition. Lorsque j'avais 22 ans, j'ai travaillé pendant 8 ans comme sauveteur de piscine de plage. C'était mon métier pendant des années d'être sauveteur, à surveiller les gens pendant qu'ils nagent, etc. Et d'assurer la sécurité et d'intervenir. J'ai travaillé pour la ville de Montréal, la ville de Chougamau. J'ai travaillé aussi dans les camps chrétiens. Et c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et à 22 ans, j'avais fini mon bac, j'étais au cégep et j'allais au cégep pour le plaisir, parce que j'avais jamais été au cégep. Je me suis dit, bon, ben, je m'occupe d'un groupe biblique au cégep, j'ai un trou, je m'en vais au cégep pour le plaisir. Je me suis dit, un bon Québécois, ça va au cégep. J'arrivais de province anglophone, là. Fait que j'étais dans un cégep. Bon, un cégep anglophone, mais j'avais juste une éducation anglophone. Et je faisais de l'évangélisation sur ce site-là. Et finalement, au bout de quelques mois, ben là, il y avait une fille qui me tombait dans l'œil. J'en avais parlé, de la fille. Puis, regardez-les pas tout en même temps, mais elle est à ma droite discrètement. Là. Regardez-les pas tout en même temps, elle va être mal à l'aise. Là. On célèbre 27 ans de mariage vendredi passé. Et je comprends bien ici que vos applaudissements, c'est pour la félicité de tout le travail qu'elle a fait pour ces 27 années-là. Il n'y a pas de problème, je comprends ça. Et là, j'avais une belle-mère. Puis elle voyait que souvent, j'avais voyagé le Canada, le Québec, là, un peu partout sur le pouce. Fait que là, elle commençait à avoir des cauchemars qu'un jour, sa fille se ramasse à faire du pouce avec moi. Puis évidemment, les gars, c'est pas marketing, ça. Tu ne rassures pas des beaux-parents que tu vas t'occuper de sa fille en faisant du pouce sur le bord de la rue. T'es mieux d'avoir un char. On est au Québec, hein? Fait que, puis là, j'avais pas de l'argent parce que je travaillais pas. Alors, je dis, Seigneur, je pense qu'il faut que je travaille, je veux marier cette fille-là, la belle-mère potentielle future a des cauchemars que je fais du pouce avec sa fille. Il faut que je travaille. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une semaine à plein temps, 40 heures semaine. Dans ce temps-là, t'envoyais ça pas par l'Internet, hein, t'allais le porter en main propre. Alors, fais le tour de Montréal, tous les piscines possibles, 40 heures semaine. Au bout d'une semaine, pas un seul appel, pas un seul entrevue intéressante, il n'y a rien qui bougeait. Mais c'est mon métier, c'est mon travail, c'est ça que je voulais, n'est-ce pas? Puis au bout de la semaine, je pense que c'est mon père ou ma mère, j'ai oublié, il dit, écoute, au coin de la rue, là, il y a un Canadian Tires qui font des rénovations. Va donc voir. Ah, j'ai pas le goût de travailler là. Ouais, mais c'est au bout de la rue. Ouais, mais c'est pas ça mon métier, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est au bout de la rue. Quelqu'un parti de, tu comprends pas, de c'est au bout de la rue, puis t'as pas d'entrevue. Je la voulais là, la job. Ouais, t'as raison. Ouais. Fait que j'ai été là. Et je suis arrivé, je parlais avec la. Puis écoute, il m'a rappelé tout de suite après avoir déposé mon CV, il m'appelait pour le lendemain à 10 heures d'être là pour une entrevue. Bon, c'est peut-être un signal du Seigneur. J'ai jamais travaillé sur un grand plancher. Alors j'ai été faire l'entrevue, ça clique bien. Puis j'ai dit, écoute, mais moi, je travaille pas le dimanche matin. Là. Là, moi, je vais à l'église, c'est important pour moi, juste que tu le saches. Il n'y a pas de problème, il dit, on cherche du monde pour faire de la rénovation, là, 10 heures par jour, 5 jours semaine, c'est de nuit, de 12 heures. De 9 heures le soir à 9 heures le matin. Je vous jure qu'à 5 heures du matin, ça commence à être long, le chiffre de 12 heures la nuit. Et j'ai dit, écoute, mais en plus, écoute, moi, je vais devenir éventuellement pasteur, fait que je suis dans une transition de vie, là. Fait que là, j'ai dit, je fais des cours d'hébreu, j'ai fini mon bac le vendredi, fait que je peux pas être là le vendredi. Ah, c'est correct, t'arriveras à l'heure que t'arrives. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a donné mon linge, je travaillais le lendemain matin. C'était pas le travail que je voulais, mais c'est le travail que Dieu m'a donné. Mais j'ai été béni. Mon patron, c'était un homme qui avait été élevé dans le quartier Saint-Henri. Lui, pour mon... comment tu appelles ça pour. Avant de se marier, là, la soirée où est-ce qu'on est des gars ensemble, là, En tellement de vie de garçon, il voulait m'inviter aux danseuses. Mais lui, il voulait juste être sweet, là. Lui, c'était normal dans son quartier. C'est un chum d'amis. J'ai dit, écoute, c'est gentil, là. Mais tu vois, moi, j'essaie de rentrer vierge dans le mariage, tu comprends? Fait que, il dit, je ne vous expliquerai pas le reste de la conversation. C'est pas nécessaire à respecter. Vous pouvez comprendre l'image. J'ai dit, c'est gentil, mais non, merci. Fais-moi un chèque à place pour les dépenses que tu aurais faites, puis ça va être correct. Là. Mais c'était un bon patron parce qu'il m'aimait, puis il appréciait ce que je faisais, puis il valorisait mon travail. Il me faisait sentir en or. Fait que quand je suis rendu à l'été, les rénovations ont terminé, il m'a pris à plein temps dans un autre département avec lequel j'avais un bon. Puis quand j'ai eu un travail finalement à la ville pour travailler à la piscine, même si j'avais une journée cette semaine, il dit, dis-moi la journée puis je t'adonne. Fait que je travaillais 5 jours, il me donnait la journée, la seule journée, je travaillais la journée que j'étais off, à une semaine d'avis, il me prenait, parce qu'il m'appréciait puis il me faisait sentir aussi en or. Je travaillais au salaire minimum. Mais semble que je pouvais gagner plus comme sauveteur dans mon métier. Je n'étais pas dans mon domaine pantoute. Je me tapais des nuits 12 heures. Je ne tripais pas. Mais quelle belle expérience! Et Dieu m'a permis d'acheter ma bague, la bague pour marier ma femme, acheter un char, vider un appartement d'une dame âgée, puis d'acheter tout son appartement pour avoir un appartement pour nous autres. Il m'a donné les sous que j'avais de besoin. Pas la job que je voulais, parce que ce n'est pas une commande à l'auto. Mais demande à Dieu, hein? Mais il m'a donné une job qui m'a béni par ma relation avec mon patron. Et à l'époque, je gardais la barbe un peu plus longue que là, mettons, là. Peut-être qu'il y en a qui trouvent des fois qu'elle est trop longue, là, mais c'était plus long que ça à l'époque, là. On m'appelait Aaron au travail. Je ne sais pas pourquoi, Bible, barbe, mais ça faisait qu'on m'appelait Aaron au travail. Mais j'avais l'occasion d'avoir un bon témoignage sur place, relationné avec les gens. Expérience de travailler de nuit, je me suis toujours retourné à ça. Ça a été une bonne expérience pour moi de vivre, comprendre ce que plusieurs d'entre vous vivez depuis des années à travailler la nuit, puis le turnover qui n'est pas évident, puis il y en a qui changent à toutes les 2-3 semaines. J'ai appris plein de choses sur travailler en grand plancher avec 150 employés. Super expérience qui m'a vraiment enrichi. Mais ce n'était pas la job que je voulais. Ce n'était pas dans mon département de compétences. Mais Dieu m'a amené là et m'a béni dans cette expérience-là, m'a fait cheminer, amener des expériences, des rencontres, a travaillé mon caractère, a fait développer des nouvelles compétences. Et ça a été une bénédiction pour moi. Vous me suivez? Et peut-être vous êtes capable aussi, dans un domaine ou un autre de votre vie, vous rappeler un moment comme ça de votre vie où ce que vous avez relationné avec le travail de cette façon-là. Et j'ai aimé. Je peux vous dire honnêtement, j'ai aimé mon travail. Là. J'en garde un bon souvenir de travailler pour Canadian Tires Canada. Même quand je fais une dépense aujourd'hui, encore, j'écris encore CTC. Je sais c'est où CTC. Canadian Tires Canada. Mais peut-être vous avez une expérience comme ça. Peut-être ce matin, vous m'écoutez puis vous n'aimez même pas votre job. C'est ça votre défi. Ou peut-être pour vous ce matin, vous aimez trop votre job. C'est votre identité. Vous travaillez trop de temps à votre job. Peut-être c'est toute votre personne au complet. Mais je vous raconte tout ça pourquoi? Bien, parce qu'on parle de travail. Je n'ai pas eu le travail que je voulais, mais j'ai eu le travail que Dieu m'a donné. Et m'a donné la job à la ville comme sauveteur quelques mois plus tard, quand Dieu l'a choisi que c'était le bon temps pour moi. Sans que je comprenne tous les paramètres du pourquoi, il n'y avait pas à me l'expliquer. Moi, j'avais à recevoir sa bénédiction et à être reconnaissant et de profiter de cette expérience pendant cette période de temps-là dans laquelle il voulait que je chemine. On passe notre vie au travail, une grande partie de notre vie. Il faut apprendre à aimer cette partie intégrale de notre vie. Le travail se veut une bonne chose pour nous, pas une punition de la part de Dieu, vous savez. Et peut-être certains d'entre vous, c'est ça votre relation. C'est mon lot, je suis obligé de travailler. J'espère vous encourager par la vision de la parole de Dieu ce matin et au cours des 2-3 prochaines semaines. Dieu ne veut pas seulement que je m'accomplisse dans mon travail, mais que j'y trouve aussi seulement juste ma valeur, mon identité, mais bien plus que cela. Dieu veut que ce soit un lieu de service pour Dieu et un endroit pour l'honorer. Je vais le répéter. Dieu veut que ton lieu de travail soit un lieu de service pour Dieu et un lieu pour l'élever, pour l'honorer lui. Pas moi, lui. Et cette série de messages va pouvoir toucher justement cette question-là. Qu'en dit la Bible sur le travail? Je veux vous encourager. Quelle est la motivation du chrétien pour travailler? Est-ce que Dieu est intéressé par mon travail? Mon témoignage au travail? Est-ce que je fais mon mieux, que je contribue, que j'ajoute à quelque chose? Est-ce que Dieu fait partie de mon travail d'employé ou d'employeur? Et mon éthique de travail, ma manière d'interagir avec les autres, est-ce que Dieu s'en soucie de cela? Et la réponse est oui, Dieu s'en soucie. Dieu veut que tu sois heureux au travail et que tu l'honores. Dieu veut te travailler au travail, Dieu veut te bénir au travail et Dieu veut aussi que tu l'honores au travail. Pour plusieurs, mon travail, c'est mon affaire. Dieu n'est pas vraiment intéressé. Dieu s'en fout de mon travail. Et c'est malheureux. Pour certains, le travail est un mal nécessaire. Mais est-ce le cas? Allons et regardons dans Genèse chapitre 1 ce matin. Et regardez ce que la Bible a à nous dire. On va regarder quelques points. On va surtout travailler sur cette question-là de pourquoi travailler? Et la semaine prochaine, on va aborder un autre élément et tourner dans 3 semaines une finale pour... Et on ne prétend pas qu'on va tout dire sur le travail, mais ce qu'on veut, c'est aborder un domaine de notre vie qu'on est confronté continuellement à tous les jours, à chaque semaine, et de se rappeler le but de Dieu, de vous encourager comme travail, de nous encourager avec une vision chrétienne de notre rôle dans notre société et d'y trouver, par la grâce de Dieu, du plaisir au travail. Genèse chapitre 1, je vous lis quelques versets ici et là de ce premier chapitre où ce qu'on voit Dieu... Notre Créateur travaillait. Regardons Dieu travailler. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait ou planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça a l'air bizarre, séparer les eaux d'avec les eaux, hein? Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'au-dessus d'avec les eaux d'au-dessous de l'étendue. Donc, il y a des eaux en bas, des eaux... le monde était un peu différent avant le déluge, il semble, et Dieu fait de l'ordre dans tout cela. Et cela fut ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu le dit et il le fait. Et Dieu appela l'étendue ciel, et donc il nomme les choses qu'il crée, qu'il sépare, qu'il met de l'ordre. Et ainsi, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut un second jour. Allons maintenant au verset 26. Dieu vient de créer au verset 25-26 les animaux. Et là, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ici, c'est l'homme générique. L'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, ici, on est dans le chapitre 1. Hein, c'est un peu comme la première page du Journal de Montréal où on donne le général, là, ce qui s'est passé la première journée. Puis là, tu vas 3-4 pages plus loin à l'article complet. Puis là, au chapitre 2, il va éclater le sixième jour. Il va nous expliquer davantage les détails du sixième jour. Ici, c'est général. On va le voir plus en détail dans le chapitre 2 dans quelques instants. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit... Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de la terre et tout arbre ayant en lui un fruit de l'arbre et portant de la semence et sera votre nourriture. Donc, la création se nourrit elle-même, pourvoit les uns pour les autres. Et tous les animaux de la terre, de tous les cieux, à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Père Céleste, bénis ta parole en nos cœurs alors qu'on lit les Saintes Écritures, que les Saintes Écritures nous instruisent, qu'elles nous parlent, qu'elles nous encouragent, qu'elles nous élèvent les yeux vers toi, Seigneur, qu'elles corrigent ce qui a corrigé, qu'elles soutiennent ce qui a besoin d'être affermi, Seigneur, et qu'on puisse avancer ce matin. Rencontre-nous dans ce temps, dans tes Saintes Écritures, Seigneur, et conduis ton serviteur à parler avec justesse de toi par ton esprit. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, pourquoi travailler? Pourquoi travailler? La première chose, le travail de Dieu dans Genèse chapitre 1 nous montre que Dieu se présente avant tout autre chose comme un travailleur, un créateur. Notre créateur se présente à nous comme un travailleur. Il fait plein de choses. C'est simple, c'est pas simplement une petite phrase, cette phrase au début, au commencement Dieu. Ce n'est pas au commencement Big Bang ou pas au commencement hasard, c'est au commencement Dieu. Au commencement n'était pas la création, mais était le créateur. Dieu devrait être le commencement de toute chose dans notre vie, tout comme aussi la priorité au travail, le début de toute chose. Si nous commençons avec Dieu, nous allons éviter tellement de problèmes, les amis, dans la vie, si on commence avec cette phrase-là, au commencement Dieu. Pas juste pour la création, pour tout ce que sa création fait. Et la preuve que Dieu annonce, la preuve que Dieu est annoncée ici dans ce chapitre comme la priorité du chapitre et non la création elle-même, c'est le nombre de verbes attribués à Dieu dans ce premier chapitre. Et quand je dis le premier chapitre, je vais jusqu'au chapitre 2, verset 3, 4, compléter les sept jours de la création. On va mentionner, par exemple, Dieu créa quatre fois. Dieu est mentionné 35 fois. Je ne compte pas les pronoms, je ne compte pas les verbes attribués à Dieu. Juste Dieu mentionné 35 fois. Dieu dit. Où Dieu vit 7 fois, Dieu appela 3 fois, Dieu fit 3 fois, Dieu sépara 1 fois, Dieu bénit 2 fois, Dieu acheva, Dieu bénit, Dieu plaça l'Esprit de Dieu, l'image de Dieu. Tout dans la création est centré autour du maître travailleur, créateur des cieux et de la terre qui nous donne le modèle ici. On nous décrit son travail comme créateur qui remplit le vide, par exemple, n'est-ce pas? Il réorganise, il crée des choses, il sépare, il réorganise. Combien font ça au travail, hein, de réorganisation, continuellement, de mettre de l'ordre dans du chaos ou dans du vide, et qui met de l'ordre dans ce chaos, etc. N'est-ce pas ce qu'on fait beaucoup au travail, chacun d'entre nous? d'ordonner, de mettre des choses à faire, de mettre de l'ordre dans toutes sortes de choses. Il nous décrit comment il travaille, par exemple, il verbalise son plan et il se matérialise, il le fait. Il dit audiblement ce qu'il va faire et les choses se font par son autorité et par son travail, par son façonnage, littéralement, qui nous est décrit au chapitre 12, qu'il façonne des choses. Il délègue des tâches aussi par son autorité à l'homme. Il y a des choses qu'il va demander à l'homme de faire. Et on va voir un peu plus de détails dans le chapitre 2. Mais déjà, il délègue ici de l'autorité à dominer sur les animaux. Même l'Esprit de Dieu est à l'œuvre ici. Elle plane sur les eaux, l'Esprit de Dieu. Supervisant comme... Et le mot planer ici est utilisé, par exemple, pour un aigle qui vole au-dessus de sa couvée et qui plane pour protéger, surveiller. Et l'Esprit de Dieu est là en train de travailler dans la création, en train de superviser, de planer au-dessus des eaux dans le travail de Dieu. Il voltige au-dessus. Dieu évalue sa création aussi. Il regarde, c'est bon. C'est bon. Hey, c'est beau, c'est bon, c'est excellent. Il évalue son travail tout au long, à chaque jour presque, où ce que Dieu fait un commentaire sur son travail. Il rend son travail aussi autosuffisant, capable de se reproduire, capable de fournir à sa création ce qu'elle a de besoin. Dieu fournit tout ce qu'il a de besoin. C'est beau et c'est bon. Et au chapitre 2, on va aller dans quelques instants, il se repose. Il nous donne un exemple de se reposer, pas parce que Dieu est épuisé. Combien savent que Dieu n'est jamais épuisé? Mais il nous donne un exemple, et il va le dire plus tard, ce n'est pas moi qui le dis, les Saintes Écritures nous disent qu'il nous a donné un exemple, un moment où s'arrêter. Et là, de profiter de ce travail-là, de le regarder, d'en jouir, de prendre du repos physique et de voir et de profiter de tout ce travail-là. Parce que ça serait fou de travailler continuellement et jamais s'asseoir pour regarder l'arbre. Le jardin qu'on a cultivé. Jamais s'asseoir pour manger du fruit du jardin et le savourer, d'apprécier, d'être reconnaissant et d'avoir du plaisir de ce que Dieu a donné. C'est un cadeau de Dieu, ça, nous dit l'Ecclésiaste. Et c'est un déséquilibre lorsqu'on ne peut même pas jouir du travail de nos mains. C'est un cadeau de la part de Dieu. Mais combien travaillent et en perdent le sens et n'ont pas de plaisir au travail et en plus ne jouissent même pas du travail accompli pour mettre les mains dedans, d'y goûter, de savourer, d'avoir un moment de pause, d'admiration, de reconnaissance. Parce qu'évidemment, il faut se le dire, le jour de repos, c'est un jour de reconnaissance aussi que Dieu nous a instruit à avoir selon la parole de Dieu. Donc, l'homme est la seule création faite maintenant ici à la capacité de relationner, ayant une relation avec le Créateur que nous pouvons avoir parce que Dieu nous aime. Et c'est-à-dire qu'il veut une relation avec nous. Et il nous permet de le connaître, donc, ce qu'il aime et de lui plaire, de connaître sa volonté, de faire ces choses-là. Et ce qu'il n'aime pas, le péché, la désobéissance, et qu'il va donner des prescriptions à ce sujet-là, afin qu'on puisse le suivre et lui faire plaisir. Et à ce moment-ci, tout est parfait dans sa création. Tout est parfait ici. Maintenant, chapitre 2. On éclate le chapitre 6, la journée 6, excusez-moi. Il a un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'il demande à l'être humain dans cette période de perfection où ce que Dieu demande à l'homme de travailler et le repos. Et regardez bien dans les premiers versets. Verset 2. Et là, ici, je lis dans ma vieille Bible Scofield, dans la colombe des années 70, okay? Pour ceux qui voient une différente version, là. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. L'expression souvent pour toutes leurs armées peut parler des astres, mais aussi des anges et tout ce qui est à son service. Dieu acheva le septième jour son œuvre ou son ouvrage qu'il avait fait. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre ou son ouvrage qu'il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le met à part comme quelque chose de spécial, distingué des autres, parce qu'en ce jour, il se reposa. C'est ça la raison de tout son ouvrage qu'il avait fait, littéralement qu'il avait fait en le faisant. C'est comme ça que c'est écrit à l'époque. Et de ce mot-là, usage, ouvrage ou œuvre, vient le mot du Nouveau Testament ergon, hein, des choses qui sont ergonomiques. Vous savez, c'est quoi les choses ergonomiques au travail? Une chaise ergonomique, hein? Une chaise qui facilite ton travail, qui est en harmonie avec ton travail. Si on va chez un ergothérapeute ou un ergothérapeute, ouais, si on va faire de l'ergothérapie, ma fille a déjà fait ça, hein, on travaille, le mouvement au travail. Des fois, on va aller faire ça après pour de la récupération après. Ou un chirurgien, hein, c'est un ergo du. Des mains, Hein, un chirurgien, il travaille des mains dans la chirurgie. C'est de là que vient ce mot-là grec qui a été utilisé pour traduire le texte hébreu de l'époque. Notre travail, notre ouvrage. En se basant, et là ici on nous dit au verset 15, je vais lire un peu plus loin. À descendant au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors on nous donne un peu plus de détails, comment il a fait au chapitre 1 dans les détails. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Et on lit au verset 15, « Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler, littéralement. » Dans votre version, peut-être vous avez « cultivé », mais c'est une interprétation littérale de ce qu'il allait faire comme activité, mais c'est le mot tout simplement « servir », tout simplement. Pour servir, si on sert le sol, ben on cultive. Donc, la traduction le met « cultiver ». Et pour le garder, en prendre soin, être un protecteur. L'Éternel Dieu ordonna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement avec. » Donc, tu as carte blanche, mais il y en a une chose que je veux te protéger, ne touche pas à ça. Il y a une raison, tu ne touches pas à ça, ce n'est pas bon pour toi. Si tu y touches, il y a des conséquences, tu es averti d'avant. Le reste, écoute, profite de tout ça, travaille le sol, garde-le. L'Éternel dit au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et il lui fera un être semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux, pour et il les fit venir vers l'homme. Donc Dieu les amène vers l'homme, et l'homme les appelle afin qu'il, tout être vivant, porte le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux. Il faut être intelligent. Si on ne parle pas de l'homme de Cro-Magnon ici, qui est dans une caverne, qui a de la misère à allumer un feu, là, puis qui ne sait pas parler. Là. Hein, on parle de quelqu'un de pas mal intelligent dès le début de la création, qui est capable de regarder les détails d'un animal et de lui donner un nom intelligent pour chaque animal qui est amené devant lui par le Créateur, par Dieu le doté de capacité. Et lui délègue la nomination des noms. Spécial. C'est lui le Créateur, mais il dit, c'est toi qui vas les nommer. Il délègue son autorité. Même s'il pourrait lui-même, comme Créateur, « Non, non, mais toutes tes affaires, c'est moi qui ai tout créé, là. » Non, non. Dieu partage et donne à l'homme et délègue des autorités. Parce que quand tu nommes quelque chose, on comprend, tu as une autorité, hein? Les gens sont tous fiers de découvrir une étoile, de nommer une étoile à son nom, de choisir le nom. Ouh, tu sais, on n'a rien créé, on a juste trouvé quelque chose qui existait déjà. Les îles, c'est comme ça aussi, hein? On trouve une île, on le nomme selon la personne qui l'a trouvé. Mais tu es ici, il n'est pas regardant, il partage. Si tu vas les nommer, je t'ai rendu capable, vas-y. Puis là, il trouve du plaisir à voir l'homme nommer chacun des animaux, puis garder ce nom-là, intelligent, choisi selon les caractéristiques. Puis Dieu, il trouve tout son plaisir là, à voir sa créature se développer, être utilisée, puis travailler dans les domaines qu'il lui confie. Quel plaisir pour le Créateur de voir chacun de ces animaux-là passer devant lui, nommé par son Fils. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et là, je ne peux pas en parler, parce que ce n'est pas notre sujet ce matin. On en a déjà parlé. Mais comment Dieu vient au secours de l'homme et le complète aussi en cette sixième journée par la venue d'une femme pour venir à son secours, pour travailler en équipe et qu'il prend de sa côte. En se basant sur le travail de Dieu, vous savez, en voyant son travail d'or, de former, de créer, quel est le travail et la tâche que Dieu a donné à l'être humain? Être son image, son reflet visible sur terre. En nommant les noms, il était le représentant de Dieu dans son image, à refléter la gloire de Dieu, à nommer chacun des animaux créés par le Créateur, mais c'était son délégué, créé à son image, qui nomme chacun des animaux. Il va dominer sur la création, et le mot « dominer » ici, dans ce contexte-ci, n'est pas péjoratif, ça veut dire qu'il est au top, en train d'être le boss, d'être le gouverneur, littéralement, de la terre. Il est appelé à gérer, à s'occuper de ce qui lui est confié. Je te donne des choses, occupe-toi-en, puis veille dessus. À garder, à protéger, à cultiver, à travailler le sol aussi, qui est beaucoup plus favorable à cette époque-là, pour produire, pour se développer, pour amener un jardin, pour amener des choses qu'il aime manger, de goûter, hein, un bon jardin. Là. Quand tu viens de sortir des concombres, puis là, des tomates là, du jardin, à la température de la pièce, avec des piments, là, tu mets du fromage feta, un petit peu d'huile d'olive. Là. Allez, je vous donne le goût de dîner. Hein? Là, là, elle est fraîche, elle n'est pas frette, elle n'a pas perdu sa saveur, là, ça sort du jardin. Là. C'est pas extraordinaire, ça? Puis tout ce que tu as le goût à dire, c'est pas de faire une prière. Tu pries tout le long du repas. Merci Seigneur. Moi, mes enfants, je leur tape ses nerfs des fois quand je goûte quelque chose comme ça qui est frais, qui est bon, là, tu sais, là, ou que je mange un sous-marin Subway. Mais c'est un autre sujet. C'est peut-être pas aussi frais, mettons, mais j'ai rien dit, là. Okay? Cultiver. Faire fructifier la terre pour voir un l'autre et se multiplier pour remplir cette grande terre qui a été confiée et tu vas la remplir. Fait qu'il faut se multiplier, avoir des enfants, que les animaux aient des petits et qu'ils se multiplient, remplir la terre qui a été créée pour que tous puissent en prendre possession et d'en jouir sous l'œil du Créateur aimant, attentionné, qui est content de voir sa création en profiter. C'est pas beau, ça? Quelle beauté! Quel scénario incroyable! Et le mot ici utilisé en hébreu, « avad », est le mot pour « service » qu'on va utiliser ailleurs, à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Et l'idée du travail, c'est l'idée, et c'est intéressant, de glorifier Dieu, de « kavad », de honorer Dieu. C'est très proche, le mot « travail ». C'est une lettre au début qui change le mot, ce verbe « travailler », le verbe « glorifier ». Mais le but du service est toujours dans le contexte de l'Ancien Testament, de servir Dieu et de l'honorer. De travailler là où ce qu'il m'a demandé et que ça porte gloire. La créature créée à l'image de Dieu pointe vers son Créateur pour y apporter de l'honneur du travail qu'il fait. C'est le but du service que l'on fait. Toujours, toujours, toujours. C'est dans cette optique-là. Le travail, c'est de refléter la gloire de Dieu. Le travail est une adoration pour Dieu. Pas une punition, les amis. Même dans le monde brisé, là, ce n'est pas une punition. On va parler de la punition dans quelques instants. C'est un moyen de servir, de développer la création et d'honorer Dieu. Et avant le péché, le travail, il était béni, littéralement. Le travail, avant la chute, est bon, joyeux, créatif, spirituel. Maintenant, allons au chapitre 3. Allons au chapitre 3. Et qu'est-ce qui se passe maintenant après la chute? Le travail devient pénible. Et on va cibler les versets 17 à 19. Et il dit à l'homme, là ici c'est Adam, l'homme au masculin, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme. » Et là, il faut le mettre en contexte ici, OK? Là, il ne faut pas juste citer ce verset-là hors contexte, OK? Tous les hommes et leurs femmes se regardent dans les yeux. C'est clair maintenant? OK, c'est bon. Et là, j'ai perdu ma place dans la page. Là. « Et que tu as mangé de l'arbre, tu as mangé ici. » Là, il responsabilise. « De l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. À cause de ça, qu'est-ce qui arrive? Le sol sera maudit. » C'est au verset 17 du chapitre 3. « Le sol sera maudit à cause de toi, de ta désobéissance. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture. » Donc, tu vas avoir de la nourriture les jours de tous les jours de ta vie. Mais tu vas travailler plus fort qu'avant parce qu'elle va être pas mal moins coopératif. Il y a une malédiction sur le sol, ou tout travail que l'homme doit travailler. Il produira des épines. Avant ça, il ne produirait pas des épines. Et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à sueur de ton visage ou au stress que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est de ce verset-là, chapitre 3, verset 19, que nous vient ce verset souvent qu'on va citer, entre autres dans les funérailles, n'est-ce pas? De retourner là où on a été tiré du sol par le Seigneur. Et là, tout à coup, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et le travail devient maintenant pénible. Ce n'est pas une malédiction de travailler. C'est encore la volonté de Dieu. Mais là, tout à coup, ce qui était la bénédiction va devenir maintenant avec un obstacle. C'est que là, tu vas travailler à la sueur de ton front, puis ça va être pas mal plus tough, puis tu vas être pas mal plus vulnérable à faire sortir ce que tu as besoin pour vivre. Mais tu vas l'avoir. Mais ça va être tough. Puis quand tu vas trouver ça tough, tu vas pouvoir te plaindre puis te faire une victime ou va pouvoir te rappeler que non, non, Dieu, c'était pas ça qu'il voulait pour moi au début. Mais parce que j'ai désobéi, bien, lorsque c'était une bénédiction, il rajoute une difficulté. Je vais travailler plus fort pour me rappeler, regarde, ça coûte quelque chose quand tu me désobéis. Il y a des conséquences à rejeter mon plan. Mon plan, il est bien meilleur. Il est harmonieux pour ta vie. Mais quand tu désobéis, bien, il y a ça. Et tu vas t'en rappeler, mais c'est pas parce que je t'ai maudit, toi. J'ai maudit le sol. Toi, t'es pas maudit. Et Dieu pourvoit déjà une solution dans ce premier chapitre où ce que l'homme tombe, j'y reviendrai pas, on a déjà enseigné sur ce chapitre et vous pouvez trouver les enseignements sur le site facilement. Le travail reste nécessaire, mais devient difficile, frustrant et désordonné. Il demande continuellement de remettre de l'ordre. Le sol est maudit, les efforts ne produisent pas toujours le fruit espéré et à la quantité du travail fait. Ce n'est pas toujours proportionnel. Des fois, tu reçois plus que ce que tu as travaillé. Des fois, tu reçois moins que ce que tu as travaillé. C'est comme ça dans la vie. Désormais, le travail est marqué aussi par de la fatigue, les relations brisées au travail, qui fait que l'ambiance n'est pas toujours facile dans les relations, tout comme aussi au foyer. Et là, tout à coup, je recherche à travers mon travail, égoïstement, le succès et ou mon identité dans le travail, à m'élever au travail. Et la conséquence du péché, c'est que le travail, au lieu d'être un lieu d'adoration, devient souvent un lieu de tension, un lieu de peine et un lieu où pour construire mon orgueil ou vivre du désespoir, malheureusement. Et peut-être certains de ces mots-là, vous pouvez les mettre dans votre vie actuellement ou dans le passé, à une époque où vous avez senti ces tensions-là ou ces sentiments-là face au devoir du travail, que c'était lourd. Et donc ici, vous avez compris qu'on introduit la notion du péché qui réorganise la terre maintenant à notre image, pécheur, en décidant pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal maintenant. On remplit donc la terre de laideur, de chaos, au lieu de la remplir de beauté et de l'ordre divine. Et quand on voit des choses sur la terre qui ne fonctionnent pas bien, rappelez-vous, ce n'était pas comme ça au début. Ce n'est pas ce que Dieu voulait dans son plan initial. Mais c'est la conséquence de nous, de la remanier à notre image et de l'enlaidir. Malgré tout, le Seigneur est tellement bon qu'il reste encore des beautés qu'on peut voir, ah, c'est-tu beau ça, hein? Il y en a qui trippent présentement à voir le changement de saison, hein? D'être sur une montagne puis de voir des vallées de couleurs. On voit encore des traces de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas tout enlevé. Dieu ne nous a pas tout enlevé, les amis, là. Il y aurait pu. On voit encore des traces de la beauté de Dieu dans sa création. Mais on l'enlaidit continuellement quand on est sur une plage à Cuba et qu'on se promène une plage sauvage et qu'on voit finalement plus une plage propre, mais une plage pleine de cochonneries qui viennent de partout dans le monde, qui s'échouent sur les plages et qu'on ne sait plus où se mettre les pieds, même un si bel endroit. N'est-ce pas? On l'enlaidit parce qu'on n'en prend pas soin et on le fait égoïstement. Le péché contamine de l'égoïste humain plutôt que de dominer. De donner, excusez-moi, ce service à Dieu et de le glorifier dans nos actions, c'est-à-dire notre travail, dans sa création sur la terre qu'il nous a été confié. Nous donne de la gloire à soi, que le travail nous honore, nous élève, nous glorifie et célèbre nos capacités. Mais rappelez-vous de ceci, les amis, on n'a jamais été créé pour gérer la gloire, nous. On n'est pas capable de gérer la gloire. La gloire nous détruit. Parce que quand on s'élève, on n'a pas été créé pour s'élever, on a été créé pour élever Dieu. Alors quand on n'élève pas Dieu, qu'est-ce qui arrive? On s'élève soi. Et quand on s'élève soi, qu'est-ce qui arrive? C'est la chute. Parce qu'on n'est pas fait pour gérer la gloire comme être pécheur. On est des créatures. Donc la gloire est supposée à notre créateur. Mais nous, on veut se donner gloire par nos accomplissements. Pour rien que la gloire détruit autour de nous. Des grands qui ont de l'argent, qui font des choses mal, qui profitent. Qui abuse quand on a le pouvoir tout à coup, puis quand on ne l'avait pas, bien, on juge ceux qui le font. Mais si on avait l'argent puis le pouvoir, probablement on ne ferait pas mieux non plus. Parce qu'on n'arrive pas à gérer la gloire, le succès. On n'a pas été créé pour ça, on a été créé pour élever Dieu, pas nous-mêmes. Mais la gloire nous corrompt avec le temps. Parce que ça nous dépasse. Je ne gère pas la gloire. Vous ne gérez pas la gloire. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. On n'a pas été créé pour ça. Et donc, soit que je reflète la gloire pour Dieu, ou soit que je reflète la gloire pour qui? Y a-t-il quelqu'un qui m'a suivi? Si je ne reflète pas la gloire pour Dieu, je reflète la gloire pour qui? Pour moi-même. Fait qu'on a un choix, les amis. On a un choix si on veut suivre le Créateur. Puis regardez autour de vous, vous allez le voir. Un employé avec qui vous travaillez, puis là, tout à coup, il y a un poste cadre. Oh, j'ai entendu, oh, hein? On a une expérience personnelle, hein? Il y en a un qui était honnête, probablement vous avez fait tout dans votre tête, oh, je vais le vouer, là. Ou peut-être c'était vous, le postcard? Puis là, comment est venu corrompre? Là, tout à coup, mon orgueil. Ben là, hey, tu me parles pas de même, je suis ton patron. Hey, non, c'est moi qui décide, là. Puis là, tout à coup, le power trip, là. Ben, j'arrive pas à gérer la promotion. Ou l'argent. Hein, l'argent. Mais là, si j'ai un petit peu plus, je vais pouvoir me payer plus une vacance. On va pouvoir s'acheter un chalet. Ah, ben là, j'en fais un peu plus au travail. Mais là, je ne suis pas à la maison, je néglige des choses. Ah, je lâche mon service à l'église. Ah, je n'entretiens plus ma relation qui m'aidait beaucoup avec un bon frère, une bonne sœur. Avec qui, là, je n'ai plus de temps pour mon groupe maison. Puis là, tranquillement, je me refroidis dans ma foi. Parce que là, je veux m'élever avec l'argent qui m'a tenté. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou c'était mes projets? Est-ce que j'en ai parlé à Dieu même de ce projet-là? Dieu me la rend libre, là, Dieu, là. Puis là, on dit des banalités comme ça, tu sais. Parce qu'on ne l'a pas consulté, Dieu. On espérait juste que Dieu, il bénisse notre plan. Mais on est comme ça. On ne gère pas la gloire. À moins que Dieu nous y ait placés et que Dieu nous donne une grâce, qu'on quémande avec humilité. Seigneur, je veux te glorifier, là. Et ça, ce n'est pas pour rien que Dieu dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de gérer beaucoup de pouvoir. Combien de temps que ça a pris à Joseph pour être formé, pour être capable de gérer, d'être numéro 3 en Égypte? 22 ans, ça vous intéresse? C'est une belle formation, c'est tout payé. Oui, ça a compris tout le temps au complet. Vous êtes dans l'esclavage un certain temps, en prison un certain temps, en sursis un certain temps, mais c'est tout payé. Vous auriez une formation, écoute, c'est populaire, les formations payées de ce temps-ci, non? Mais ben, oui, mais après ça, au bout de 22 ans, là, tu vas être kingpin, là. Tu vas être en haut de la pyramide décisionnelle. Des intéressés? Pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'appels pour cette annonce-là dans le journal. 22 ans de formation. On ne veut pas vous rendre compétent, on veut travailler votre caractère. C'est écrit en petites lettres en bas, là. Comme les contrats d'une certaine compagnie, mais je ne le dirai pas, là. Mais, hein? Qui voudrait ça, vraiment? Ça a été tough. Mais il a levé le défi haut la main. Pourquoi il a été préparé pour ça pendant longtemps? Il a été labouré par Dieu, sachant comment l'autorité peut nous amener à chuter. Et Dieu s'est glorifié dans la vie de Joseph, et on en parle près de 4000 ans plus tard de Joseph. Est-ce qu'il était parfait, Joseph? Non. Il était comme vous et moi. Il en a pleuré des shots en prison. Il en a fait des nuits à dire, Seigneur, c'est pas juste. Comment ça? Puis à brailler, puis de s'ennuyer, puis d'être frustré, puis devoir gérer le pardon. Puis certainement qu'il n'a pas été à avoir le cœur à pardonner toutes ces années-là au complet. Avant qu'il arrive au moment où ce qu'on nous dit qu'il a fait la paix avec son passé. C'est pas évident. On va en reparler de lui comme modèle aussi, justement. Et c'est pour ça que mon ami Marc a commencé un ministère justement intéressant, mouvement AVAD, donc mouvement travail, service, c'est le mot de l'Ancien Testament, pour soutenir justement les gens avec la foi et le travail. Et ils ont justement une conférence qui se fait prochainement. Ça fait quelques années qu'il a commencé ça. Vous pouvez trouver l'information sur le site justement Conférence AVAD ou le mouvement AVAD, donc mouvement de travailler, mais travailler pour Dieu. Et ils sont des centaines qui sont inscrits là, des hommes et des femmes dans le milieu du travail, qui viennent à ces conférences, entre autres un des conférenciers, j'ai vu Marc Bacon, qui était anciennement justement un ancien à l'église où il y a près de 30 ans, j'étais pasteur en formation, Marc était un des anciens, un homme d'affaires, et toutes sortes de personnes, hommes et femmes, qui viennent partager leurs soucis d'honorer Dieu au travail, leur expérience, un encouragement, de la perspective de vivre ta foi au travail et d'être cohérent avec ta foi lorsque tu passes 40 heures semaine minimum. Et ils ont une conférence, justement, un samedi à Saint-Hyacinthe, au centre des congrès qui est sur le bord de l'autoroute. Et si vous avez l'occasion, je vous encourage à le faire. Tout ce qui peut nous encourager à garder la perspective de pourquoi je suis là et de ne pas se distraire par tout ce qui est autour de nous. Parce que c'est tellement facile. Et je vais vous le dire honnêtement, là, il n'y a personne qui est exempté de ça. Moi, là, je dois lutter comme chacun d'entre vous là-dessus, continuellement. Champion comme j'étais à 28 ans, j'ai trouvé moyen d'avoir un zona tellement que je travaillais trop. Puis demander au conseil de me donner un mois à faire une transition, de rebâtir mon horaire, parce que je suis arrivé au docteur avec un zona dans le dos, une ceinture de feu, puis un amygdalite avec lequel là, je crachais du sang. Puis j'essayais de péter les boutons dans le dos, mais c'était zona, puis ça faisait mal. Puis j'ai tellement attendu que finalement, il n'y avait pas de pelule, le flux, je m'endure. Mais j'étais jeune, j'ai récupéré vite. Mais t'as pas ça à 28 ans, à moins que tu travailles trop. À moins que tu te noies dans le travail. Puis que ta femme, ça fait 3, 4, 5 mois, elle dit, « Me semble que tu travailles beaucoup. Me semble que tu as fait trop. Me semble que tu... » Puis tu n'écoutes pas ce que l'autre te dit. Tu n'écoutes pas les signaux. Puis le Seigneur t'envoie des signaux corporels pour te dire, « Hey, arrête! » Pas une punition, là, quand Dieu nous permet, des fois, quand on travaille trop. C'est un signal pour dire, hey, tu ne t'occupes pas de mon royaume, tu es en train de glorifier ton royaume. Tu travailles trop parce que là, tu trouves ton identité au travail. Tu trouves ton identité comme pasteur, Joël. Tu veux être un pasteur performant. Tu veux être un pasteur qui est partout. Tu veux te rendre essentiel. Mais ce n'est pas au sujet de toi, Joël Lapierre, là. C'est au sujet de ton Dieu que tu sers. Et vous pouvez vous le servir à vous-même aussi, comme je me suis servi à moi-même. On peut tous tomber dans le domaine que Dieu nous amène à servir, dans le centrage de moi, ma performance, réussir, mon égoïsme, ma réputation, mon paraître, mes promotions, mes accomplissements, ce que moi je fais et que je raconte aux autres. Et je suis le premier dans la liste qui doit lutter avec ça et à qui je prêche ce matin, là. On a toutes de besoins. Dieu ne m'a pas ralenti là, puis ce n'était pas la seule fois, je ne vais pas raconter toutes les erreurs, là, mais vous comprenez l'idée. Ce n'est pas la seule fois que le Seigneur m'a ralenti à cause de la maladie. J'ai déjà envoyé une mononucléose à 25 ans aussi. C'était champion. Ça ne m'est pas tombé dessus. J'ai abusé du travail dans une transition de vie, et etc. Okay? Vous avez certainement vos histoires aussi où Dieu vous a signalé que tu es déséquilibré. Des fois, c'est un burn-out qui amène ça. Des fois, c'est un arrêt de travail complet. Des fois, c'est une dépression. Des fois, c'est une maladie qui est beaucoup plus lourde. Et où est-ce qu'on a des signaux du corps? Et cette conférence-là se veut justement d'aider à rééquilibrer les choses, de vous encourager. Et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à en profiter et de prendre ce qui vient pour nous encourager. Ils vont parler entre autres d'incarnation du caractère de Christ dans nos vies, invitation à la présence de Christ au travail et adopter une posture de Christ dans mon attitude au travail. Et donc, plusieurs conférenciers pour encourager dans ce sens-là. Et vous trouverez tout ça sur mouvementavad.com, dont mon ami, justement, Marc Pilon, pasteur à Sherbrooke, a commencé ça il y a quelques années comme ministère. Et ils ont beaucoup de gens qui viennent, qui ne sont pas liés à l'Église, qui viennent pour être encouragés d'avoir une perspective chrétienne du travail. Et c'est une belle occasion d'évangéliser et de mettre aussi les gens qui sont chrétiens en réseau. Ils ont une application, etc. Je ne connais pas tous les dédales de ça, mais vous comprenez l'idée globale. Maintenant, on approche vers notre conclusion en regardant les deux prochains points. Nous travaillons soit avec Dieu ou soit contre Dieu. Ici, on va parler du lien entre l'Évangile de Jésus-Christ et le sens du travail humain. Face à l'appel au travail et de l'honneur, d'honorer Dieu dans notre travail, nous avons un choix à faire. Ça ne nous tombe pas dans les bras de même, là. On a un choix et une grâce de Dieu à demander. Nous sommes pécheurs et maintenant, toutes nos actions, le travail, est orienté naturellement vers le moi. Je ne vais pas me forcer, je me lève le matin, c'est naturel pour moi d'orienter vers ma performance, mon accomplissement, ma paye, en avoir plus, gagner en promotion. Et ça amène généralement un élément destructif dans mes motifs, dans mes actions et dans mes relations au travail et familiales. Soit qu'on travaille donc avec Dieu pour sa gloire, avec son aide, ou soit qu'on travaille contre Dieu, mon orgueil, mes accomplissements, et que Dieu est évacué de la place qui lui appartient. Et j'ai un choix à faire. Et ce choix-là ne se fera pas à moins que je vois le déséquilibre dans ma vie et que je demande pardon à Dieu et que je demande pour son aide. Comment? Jésus est venu pour régler le problème du péché. Voilà pourquoi. Et on va développer ce point que je vais mentionner brièvement, mais la semaine prochaine davantage. Non seulement pour nous pardonner de nos péchés, mais aussi pour restaurer ce que le péché avait brisé dans nos vies. Il ne veut pas juste me pardonner. Il veut après ça me permettre, avec l'Esprit Saint dans ma vie, de vivre maintenant différent et de ne plus être obligé de vivre pour le moi seulement, mais d'avoir maintenant la capacité qui est placée par l'Esprit de Dieu de transformation dans ma vie et que le travail devienne une bénédiction et un moyen d'honorer Dieu. C'est possible. Soyons pas défaitistes. Le pardon de Jésus amène chez nous cette possibilité-là. Colossiens chapitre 1, verset 19-20 dit, « Il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Jésus, toute plénitude et toute réconciliée avec lui-même. Dieu à travers Jésus, ayant fait la paix par le sang de sa croix. » Jésus restaure notre relation avec lui et par extension notre rapport à la vie, aux autres et au travail. Donc, il y a la création où tout est parfait, où le travail est une bénédiction. Puis, il y a la chute où tout à coup le travail devient dur, pénible et les relations sont brisées et c'est ardu. Mais il y a ici la rédemption, Jésus qui meurt à la croix pour nos péchés et que si on reçoit son pardon, après vient la possibilité de restauration. de ramener au plan initial, que tu peux vivre dans la bénédiction de Dieu, même dans un monde brisé, avec l'Esprit de Dieu qui t'aide à travailler pour lui, plus pour toi, qui t'aide à l'honorer au travail sous la restauration de Jésus-Christ, dont on va travailler le domaine un peu plus en détail la semaine prochaine. Et c'est ça qui permet un virage à 180 dans nos vies. Et donc, on a un appel, chacun d'entre nous, à la repentance. Elle dit, Seigneur, hey, c'est vrai. Naturellement, là, je fais ça. Là, que je prends le temps d'y réfléchir, on a sûrement toute la gang. En tout cas, moi, j'en ai. OK, ouais, il y a ça. Oui, il y a ça. Puis j'ai tendance de parler de moi, ce que je fais, plutôt que de ce que toi, tu fais dans ma vie. J'ai tendance à... Puis là, je vois des choses. Là, tapez-vous pas sur la tête, là. Tout ce que tu vois, Seigneur Jésus t'invite à dire, viens à moi avec. Fais juste me demander pardon puis de me demander de l'aide. J'aimerais ça être inclus dans ton travail maintenant. J'aimerais ça te donner une vision renouvelée pour que tu aimes ton travail, que tu te lèves avec plaisir, que tu aies à cœur les gens dans ton travail, que tu veuilles gravir les échelons, si Dieu le veut, pour l'honorer. Mais Seigneur, protège-moi d'un échelon qui ne serait pas bon pour moi puis qui ne serait pas pour moi. Puis c'est moi qui voudrais, Seigneur, je veux que ça vienne de toi. Parce que je veux t'honorer. Je ne voudrais pas un échelon de plus, puis finalement, je m'éloigne de toi. À quoi bon? Si ça m'éloigne de toi, puis je perds le cap de pourquoi je suis là. Ce n'est pas ma gloire, c'est ta gloire. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux le reconnaître que c'est ma tendance, puis que j'ai besoin de toi. C'est ça que le Seigneur t'invite à matin, pas de te taper. Si tu continues après la célébration ce matin, puis tu continues à culpabiliser, tu n'as pas compris la repentance de Jésus. Jésus ne t'amène pas à sortir de ce bâtiment-là s'il t'a parlé ce matin, puis tu continues à te taper sa tête. Il t'invite là. Attends pas. Dis-le au Seigneur, dans ton cœur. Reconnais-lui. Remets-lui ton fardeau. Dis-lui ta lutte. Puis demande-lui son aide. C'est tout ce qu'il te demande. Parce qu'après la repentance, se permet ce virage où ce que l'Esprit de Dieu a de la place dans ta vie. Où ce que là, il peut changer des choses que toi, tu n'es pas capable de changer toute seule. Ton attitude, ce n'est pas une commande à l'auto. OK, là, change mon attitude. Là dorénavant, c'est-à-dire, Seigneur, j'ai écrit les mots. Là, je suis patient. La commande à l'auto, il y a 6 chars au Tim Horton. Je suis patient. OK, on va laisser ça faire ce matin, Seigneur. Là je suis écœuré. Là, comment je peux sortir d'ici? Puis là, ça, c'est ça qui va arriver. La transformation du Seigneur se fait à une vitesse qu'on ne contrôle pas puis qu'on demande pardon quand on voit qu'on échoue. Puis, Seigneur, change mon cœur. Fais-le en moi. Moi, je ne peux pas le mettre sur une liste de choses à faire, changer mon caractère. J'y arriverai pas, je vais me décourager. Puis ça va être juste des stratégies humaines comme les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu tentent de faire. Puis c'est bien jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas en profondeur. Je n'expérimente pas ta gloire. C'est moi qui vais mériter d'avoir travaillé sur un domaine de ma vie. Ce n'est pas ça qu'on est invité à faire comme chrétien. C'est de laisser lui me transformer. C'est un appel complètement différent que le monde. Vous savez, je suis tellement contaminé par ça que même quand je vais nager dans mon passe-temps, j'ai de la misère à m'arrêter, à vouloir faire plus. Les hommes, des fois, on a de la misère, en tout cas, pas tous les hommes, mais je fais partie de la catégorie des hommes qui ont de la misère avec ça. Ou hein? On veut en faire toujours plus, encore, puis on n'accepte pas qu'on change d'âge, puis on veut garder la même vitesse, tu sais. C'est nous autres, les hommes, je sais, soyez patients. Il y a des femmes de même aussi, mais je n'oserais pas le dire, c'est une femme qui l'a dit. Alors, moi, j'ai rien dit du haut de la chair. J'ai répété une femme, là. Mais non, merci. C'est tellement vrai. On lutte tous avec ça, mais de différentes manières. De performer à l'apparence, de ne pas accepter notre changement de corps. Je suis pas capable de nager. Des fois, vous me dites, Seigneur, OK, s'il y a du monde sur le bord, aide-moi là, à me concentrer sur les gens. Puis pas juste ce que moi, je veux faire. Puis là, finalement, quelqu'un qui arrive, puis là, Seigneur, me change mon attitude. C'est pas grave, Joël, tu ne feras pas le nombre que tu avais prévu. Puis là, tu passes 10 minutes quand une personne prend des nouvelles. Puis là, je continue. Là, j'ai brisé l'emprise sur moi parce que le Seigneur m'a aidé. Finalement, je ressors et je ne suis pas déçu, je suis content. J'ai eu une victoire. Ce n'est pas mon entraînement, ma performance, mon objectif, mais j'ai pu relationner pendant que je faisais mon activité parce que Dieu veut que je relationne dans un monde brisé et que je ne sois pas juste sur ma performance, mon accomplissement, puis avoir écrit combien que j'ai fait de mètres. Puis que, non, ça c'est moi, mon égoïsme, mais qui est partout présent avec lequel on doit se battre continuellement. Je termine avec une histoire puis un temps de prière ensemble ce matin parce que ce temps de prière-là est important pour parler avec le Seigneur. Mais Henri travaillait 70 heures semaine. Il avait son travail Il aimait son travail et rapportait à la maison un salaire extrêmement confortable qui lui permettait d'offrir une belle vie à sa famille. Il avait toujours l'intention de lever les pieds, mais il ne le faisait jamais. Un soir, il est entré à la maison avec une excellente nouvelle. Il avait une promotion, un poste plus élevé, le plus élevé de son entreprise, le top. Mais il n'y avait personne à la maison. Au fil des années, les enfants avaient grandi, avaient quitté le foyer. Sa femme avait trouvé une carrière à elle. Et maintenant, la maison était vide. Il n'y avait personne avec qui partager cette belle nouvelle d'une promotion en haut de la pyramide, en haut de l'entreprise, après tant d'années de travail. Vous savez, Salomon a parlé de la nécessité de maintenir un équilibre de vie avec le travail dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 4 à 16. Il a écrit, « Les insensés croisent les bras et se ruinent. » Et nous ne voulons pas être, évidemment, tombés dans l'excès et dans la paresse. Puis finalement, tu perds des choses parce que tu es trop paresseux. Mais nous ne voulons pas non plus tomber dans le piège du travail acharné. Mieux vaut une poignée avec la tranquillité que deux poignées avec peine et poursuite du vent, nous dit au verset 6 l'Ecclésiaste. C'est vaut mieux que tu aies un petit peu moins, mais une vie plus paisible, que travailler plus, puis finalement, pour le perdre, pour éloigner des gens, pour perdre des relations, perdre tes enfants, perdre ton mariage. En d'autres termes, il vaut mieux avoir moins et en profiter davantage avec l'aide de Dieu. Sacrifier ses relations sur l'autel du succès n'est pas sage et n'est pas la volonté de Dieu. Je le répète, sacrifier ses relations sur l'autel du succès du travail, ce n'est pas sage et ce n'est pas le dessein de Dieu pour ta vie. Les réalisations sont éphémères. Tandis que les relations sont ce qui rend notre vie significative, enrichissante, satisfaisante. Tu sais même où aller au travail, mais quand tu sais que tu es en chicane dans ton couple, c'est lourd toute la journée. Quand tu sais que tu as un enfant qui est dans le trouble, ça t'inquiète toute la journée et ça accable ton travail. N'est-ce pas? Même si tu as le meilleur des travails. Parce que nos relations sont tellement importantes et nous affectent viscéralement. On a été créés pour relationner. Nous pouvons apprendre à travailler pour vivre. Nous pouvons apprendre à travailler pour vivre ou non à vivre pour travailler en choisissant de répartir notre temps avec sagesse. Le Seigneur peut nous donner cette sagesse si nous le cherchons et lui faisons confiance d'être mon pourvoyeur. Que lui soit mon pourvoyeur dans tous les domaines. C'est Dieu qui m'a donné ce travail au Canada. J'ai essayé ailleurs, mais ce n'est pas cela qu'il voulait me donner à ce moment-là. C'était Canadian Tires qui voulait être une bénédiction pour moi sur mon caractère. Alors, je vous laisse avant qu'on prie avec ces deux versets que j'aimerais que vous notiez, que vous preniez en note, qui nous revient avec ce mot-là des œuvres. Et c'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on retrouve justement le mot « œuvre » dans le Nouveau Testament. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, votre bon travail, littéralement, et qu'ils glorifient comment vous êtes intelligent, capable, et capable de prendre encore plus dans votre travail. » Ça, c'est une version moderne de pensée positive. Hein? C'est une version moderne d'un évangile de prospérité. Ce n'est pas la Bible. Nous, c'est quoi? Qu'il glorifie votre Père. C'est qui le Père? Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour nos péchés. C'est celui qui permet que du monde brisé que je suis, je peux vivre, restaurer et vivre avec son aide, avec son plan initial et garder le cap. Pour qui est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu travailles? C'est quoi la raison d'être? Colossiens chapitre 3, c'est Paul qui nous revient quelques années plus tard avec l'enseignement de Jésus appliqué et envoyé aux Colossiens. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre ou en travail, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, la reconnaissance. Et si Dieu te permettait ce matin de terminer notre étude en disant, Seigneur, pour la première fois ce matin, je vais te dire merci pour mon travail que je n'aime pas. Et je vais arrêter de chialer par la grâce de Dieu. Parce que c'est toi qui me l'as donné. Je vais arrêter de chialer contre mon patron ou ma collègue. Je vais commencer à prier. Puis je vais demander que toi, tu, je Je peux peut-être pas la transformer l'autre, mais peut-être toi, tu peux transformer mon attitude. Comment l'aborder? Comment l'aimer? Si tu pries pour lui ou pour elle, peut-être tu vas l'aimer. Mais si tu ne priais pas avant, c'est dur de l'aimer. Parce qu'elle n'est pas aimable. Il n'est pas aimable. Peut-être ce matin, c'est un déséquilibre. Tu as besoin de confier ton déséquilibre, que toute ton identité, c'est... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est toujours ça qui est important. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Plutôt que qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. J'ai une citoyenneté dans les cieux. J'ai la vie éternelle avec Dieu. Puis à cause de Jésus, j'ai plein de bénédictions que je ne mérite pas. Puis il a pardonné mes péchés, c'est extraordinaire. Puis entre autres, puis Dieu me donne un emploi aussi dans lequel je peux l'honorer, puis pouvoir mes besoins. Puis je suis vraiment béni, puis je suis content de pouvoir y travailler. Est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que Dieu nous veut toujours plus? Si tu as plus, tu vas vouloir encore plus. Si tu n'es pas reconnaissant maintenant, tu n'auras pas plus de reconnaissance après la promotion parce qu'il va y avoir un autre échelon à monter. C'est toujours comme ça. On est insatiable dans notre nature. Ce matin, je nous invite à prendre un temps de recueillement. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pour avoir un petit temps musical doux pendant qu'on est en train de parler au Seigneur. Et j'aimerais vous émettre des idées dans votre prière pendant que je prie. Et je vous invite à parler au Seigneur ce matin. Et de faire la paix avec lui, avec votre travail. Courbons-nous. Père Céleste, c'est toi qui as créé le travail et ce matin, on veut l'accepter et le croire. Et ce n'est pas pour me faire du mal que je travaille, Seigneur. Et je veux accepter cette vérité, Seigneur, ce matin, des Écritures, que le Créateur ne me veut pas du mal, il me veut du bien, et que le travail se veut un endroit où ce qu'il veut me faire du bien, même si maintenant c'est plus difficile. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est moi, c'est nous qui l'avons rendu plus pénible. Seigneur, je veux te dire merci pour mon travail ce matin. Je te demande pardon de chialer souvent plutôt que de regarder la bénédiction que j'ai, de voir les choses que je n'ai pas au travail ou les collègues qui ne sont pas faciles, de me plaindre devant les enfants, devant mon conjoint, ma conjointe, plutôt que de prier pour mon travail et que tu me transformes dans mon travail. Seigneur, je veux apprécier ce que tu me donnes. Et te dire sincèrement ce matin, je vois comment tu m'as amené là, Seigneur, puis je veux te dire merci pour ce travail que tu me donnes, pour me bénir, pour te glorifier et pour te servir. Seigneur, je te prie pour cette personne-là au travail que je ne supporte pas, que je parle dans son dos souvent, que j'aimerais ça voir démissionner ou mettre à la porte si j'étais le patron. Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour mon attitude. C'est pas naturel pour moi, mais je le crois que tu peux le faire. J'espère que c'est pas 22 ans comme Joseph, sincèrement. Mais je vais accepter ton cheminement, Seigneur. Que tu me fasses grandir à aimer ceux qui sont pas aimables ou qui ont pas une bonne attitude envers moi. Puis que si ça changera pas, mais que tu vas me donner l'attitude de continuer. Au moins, je me fais pas bien traiter, mais pas parce que je fais mal, parce que je fais le bien. Parce que je suis honnête, parce que je suis à l'heure, parce que je suis vaillant, parce que je ne parle pas dans le dos des autres, Seigneur, mais que je respecte les autres. Peut-être on me trouve mou ou trop doux avec certains, Seigneur, mais je veux être plus comme toi, Seigneur, pas comme le monde veut que je sois, comme toi tu veux que je sois, avec l'attitude de Jésus. Et même les gens qui ont vu Jésus l'ont méprisé, Seigneur. Alors, c'est normal aussi que des fois, moi je suis méprisé, si mon maître il a été méprisé. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, parce que je sais, je me vante souvent de mon travail puis de mes accomplissements, puis mes diplômes, parlons-en pas. Seigneur, nos diplômes qu'on accroche chez eux, c'est vrai. On se vante de notre travail, de nos accomplissements, puis souvent, on ne s'informe même pas sur les autres. Seigneur, pardon d'être si centré sur nous-mêmes face au travail, puis on veut juste parler de mon travail qui est super, puis faire sentir l'autre qu'il y a un moins bon travail. C'est plate, hein, Seigneur. J'ai déjà senti ça que quelqu'un me fait sentir de même. Puis comment je peux faire sentir les autres de même? On a tout un travail qui nous demande beaucoup de travail, Seigneur. Et on ne gère pas tout de la même façon. Aide-moi à juste être reconnaissant puis m'intéresser au travail des autres. Peut-être que je peux travailler pour... prier pour quelqu'un qui a un travail difficile autour de moi parce que moi, je suis tellement béni de mon travail puis je suis reconnaissant déjà. Mais je sais que mon frère ou ma soeur ou mon enfant a un travail qui c'est pénible et je vais commencer à prier pour lui, pour elle, Seigneur. le soutenir, m'intéresser, prier avec lui, lui envoyer un petit mot d'encouragement. Ah, Seigneur, peut-être ce matin, je ne t'ai jamais accepté dans ma vie. Tu n'es pas le maître de ma vie. Et ce matin, j'ai besoin de te donner ma vie. De te demander pardon, de mener ma vie comme je veux, en égoïste, à cultiver mon orgueil, puis dans le fond, je ne pourrai jamais sauver ma vie. Ce matin, je veux le reconnaître que Jésus est le seul nom qui a été donné sur cette terre qui peut me pardonner mes péchés. Et ce matin, je veux m'approcher de toi, Seigneur. Prends la place dans mon cœur. Je veux m'approcher de toi avec mes obstacles, mes problèmes. J'ai besoin de ton aide pour trier tout ça. Je n'y arriverai pas tout seul. Oh, aide-moi, Seigneur. Je veux te donner ma vie. J'aimerais ça être ton enfant, s'il vous plaît. Je veux croire en Jésus ce matin et te demander pardon puis te donner ma vie. Seigneur, entends nos prières ce matin, nos luttes. Fais-nous du bien comme travailleurs et que les membres de l'Église baptiste de Trois-Rivières soient des travailleurs qui sont, Seigneur, pas parfaits. Non, on n'est pas parfaits. Mais qui savent demander pardon quand on fait des erreurs, quand on arrive en retard, quand on ne fait pas à notre meilleur à notre tâche, mais qui sont fidèles au travail. Puis qui utilisent bien leurs heures de travail et qui trouvent un moyen, avec l'aide de Dieu, d'avoir plus d'équilibre pour te servir dans le travail, pour te servir à la maison, pour te servir dans l'église, pour te servir dans mon quartier, pour te servir avec mes enfants, et que de tous les domaines de ma vie soit ton service à toi et que tu sois le centre. Et on te prie dans le nom de Jésus. Amen.